Alors, U, comme utopie, Marx arrive après un certain nombre de penseurs qu'on a qualifiés comme Fourier et d'autres d'utopistes. Et Marx semble avoir été critique vis-à-vis d'un certain nombre de ces penseurs, de ceux qui ont pensé des sociétés ou des modes d'organisation sociale idéales. Dans quelle mesure est-ce que Marx en est l'héritier et de quelle manière? Et puis, est-ce que Marx lui-même, quand il envisage une société future, une organisation sociale qui pourrait aboutir après une révolution sociale, est-ce qu'on peut vraiment considérer son modèle comme utopique? Et en gros, est-ce que les marxistes sont de doux utopistes comme on nous le dit depuis que le matérialisme a été pensé?
Tout d'abord, il me semble qu'il faut dire que utopie, c'est un bien joli mot. Et ce qu'il y a derrière utopie, c'est bien sympathique. Parce que ce que recouvre le terme d'utopie, c'est la réflexion qui coïncide vraisemblablement avec l'avènement de l'humanité sur les conditions du bonheur. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble en étant heureux, c'est-à-dire sans la violence et la guerre, et dans de bonnes conditions, pas du tout dans le luxe, mais dans de bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle à la notion d'utopie sont attachés tous les projets de société idéale. Qu'on appelle ça la belle cité, la Callipolis de Platon, qu'on appelle ça les îles bienheureuses, comme un certain nombre d'écrivains au Moyen-Âge, c'est l'idée, elle est chez Platon exactement, que on peut, par contraste, et par critique de la société existante, déterminer les conditions de ce que pourrait être une société juste. Et alors, pour répondre à cela, Platon imagine une société utopique, une société où les rapports entre les hommes, les rapports des hommes avec la nature, seraient des rapports heureux. Celui qui définit le mot d'utopie, d'ailleurs celui qui invente le mot d'utopie, c'est Thomas More. Alors ça, on le sait, utopie de chez Thomas More, ça veut dire ce qui n'a pas de lieu. Et c'est la raison pour laquelle ce concept, cette notion doit être associée à celle d'uchronie. Uchronie, ce qui n'a pas de temps. Ni temps ni lieu, c'est-à-dire que on ne peut pas affecter ni à un espace ni à une durée quelconque la notion d'utopie. Thomas More n'est pas un rêveur. Thomas More n'est pas un illusionniste. Thomas More n'est pas un naïf. Thomas More est chancelier de l'échiquier de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire quelque chose comme notre premier ministre et premier ministre d'aujourd'hui. Thomas More a joué un rôle important, si important du point de vue de son indépendance critique, qu'il a fini condamné à mort, qu'il a été exécuté. Thomas More écrit un ouvrage qui s'appelle l'île d'Utopie. Cette île d'Utopie, elle a ça de particulier qu'elle n'est même pas ouverte sur la mer. Elle n'est même pas ouverte sur la mer parce que les influences, les dangers qui sont ceux de la civilisation elle-même, c'est-à-dire l'apport de marchandises nouvelles, vient nécessairement de la mer. C'est déjà ce que disait Platon. Pour Platon, la cité idéale, il a beau être grec, c'est ou plutôt parce qu'il est grec, il ne la met pas au bord de la mer. Il ne la met pas au bord de la mer parce qu'il dit la catastrophe arrive dès qu'il y a des échanges de marchandises, des coiffeurs, des bijoutiers, etc. Lui, son idéal, c'est d'en rester aux paysans grecs qui bouffent son poivron, ses olives, ses tomates, et qui n'est pas tenté par des produits de luxe. Alors, si on en vient maintenant à Marx, on retrouve toute cette épaisseur de considérations, d'écrits, de théories. Sous le capitalisme, il y a effectivement une catégorie d'écrivains auquel on a donné le nom d'utopiste, et plus exactement de socialiste utopique. Parmi eux, il y a quelques noms que vous avez cités, c'est-à-dire les noms de Fourier, les noms de Leroux, les noms de Saint-Simon, les noms d'Owen, les noms d'Hodgkins. Ce sont des gens qui ont été fréquentées par Marx et Engels. Leur qualification de socialiste utopique vient du manifeste du Parti communiste où Marx et Engels, dans un chapitre qu'on néglige souvent sur la littérature communiste, montrent que les socialistes utopiques, ce sont des gens qui ont élaboré une critique de la société capitaliste qui ne pouvait pas parvenir à son terme dans la mesure où cette société elle-même n'avait pas, si l'on peut dire, produit son essence à travers son existence historique. Donc ça veut dire très clairement que le socialisme utopique, c'est la réplique aux conditions de la société capitaliste encore immature. Ce qui fait que le socialisme utopique est amené à compléter des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est ainsi, par exemple, que chez Pierre Leroux, on trouve une critique très forte de la plutocratie. La plutocratie, c'est-à-dire une société qui est fondée sur l'argent, sur l'enrichissement. C'est-à-dire on trouve une condamnation du profit. Chez Fourier, on trouve des choses extrêmement importantes concernant l'organisation sociale, concernant, on le sait, la place des femmes, concernant les finances. Chez Owen, on trouve une théorie qui anticipe sur ce qu'on pourrait appeler un régime de coopérative, sur une théorie de l'éducation, et en particulier de la liaison entre l'éducation et l'industrie qui intéresse Marx. Dans le manifeste, voilà ce qui est dit. Mais ce qui va se passer par la suite, ce qu'on a appelé le socialisme utopique, en gros, est défini comme le communisme. C'est-à-dire que les idées des socialistes utopiques sont des idées dites communistes. C'est-à-dire les idées d'une société égalitaire, d'une société qui connaîtrait la communauté des biens. La communauté des biens est une idée platonicienne qui se retrouve en toutes lettres dans le manifeste. L'idée que Marx et Engels vont refuser, c'est l'idée d'une communauté des personnes, c'est-à-dire un thème qui est chez Platon aussi, mais qu'ils ne conservent pas. Ce communisme-là, au tout début de leur carrière, Marx surtout, il le refuse. Parce qu'il est exprimé notamment par un de leurs aînés allemands qui s'appelle Weitling. Et Weitling fonde son communisme sur l'amour, comme c'était le cas d'ailleurs de beaucoup de théories. Alors il faut donc, dans l'écriture même du manifeste, commencer par réfuter l'influence que Weitling exerce dans les milieux de la Ligue communiste, c'est-à-dire les milieux des ouvriers allemands à Paris, pour contester cette idée que c'est l'amour qui va nous sauver, au sens le plus ancien. À partir de ce moment-là, on peut penser qu'il y a une différence profonde entre l'attitude utopique et l'attitude marxiste. Cette différence va nous donner lieu à ce qui est peut-être la plus grande bévue de l'histoire du marxisme. Cette bévue est due au départ à un problème de traduction. Engels, pour faire comprendre ce qu'a été l'apport de Marx, c'est-à-dire comment le travail que Marx a fait dans le Capital amène une rupture avec la réflexion des penseurs utopiques. Pour faire comprendre cela, Engels a créé une brochure qui s'intitule « Le socialisme de l'utopie à la science ». Ça veut dire un mouvement, ce mouvement qui est justement dans le manifeste, c'est-à-dire la réflexion sur des conditions de cité idéale à partir du capitalisme immature et la réflexion sur une société idéale, mais qui, elle, s'inscrirait dans les conditions matérielles d'un capitalisme réalisé. En français, Lafargue, qui était un des beaux-fils de Marx, fait connaître cette brochure sous le nom de « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Et là, la bévue vient de ce petit mot « et ». C'est-à-dire on va avoir d'un côté les socialismes utopiques, c'est-à-dire les rêveurs, les connards, c'est mauvais, et d'autre part, les socialistes scientifiques, ça c'est du bois dur. Et ça va donner une chose absolument extraordinaire, c'est l'idée que tout ce qui touche au marxisme, c'est scientifique, donc la dénonciation totale de l'utopie, et naturellement mettre en avant un certain nombre d'écrits de Marx et d'Engels qui caricaturent l'utopie, et qui sont une véritable manipulation. Parce que quand on regarde les choses sérieusement, on voit d'abord que Engels, qui a commencé par travailler dans le milieu des ouvriers allemands à Paris, n'avait rien trouvé de mieux pour leur formation politique et idéologique que d'envisager la publication d'un recueil des textes utopiques. C'est-à-dire un recueil qu'on aurait mis à la disposition des ouvriers, où on verrait Fourier, Owen, Leroux et d'autres. Par ailleurs, dans l'anti-During et dans certains passages du Capital, on sait très bien que Engels et Marx rendent hommage aux utopistes. Non seulement ils leur rendent hommage, mais ils disent la dette qu'ils ont vis-à-vis d'eux. Citons par exemple l'idée que Marx reprend souvent, qu'il ne peut pas y avoir de libération de l'homme sans une libération de la femme, que la femme est l'avenir de l'homme, ça vient directement de chez Fourier. Que l'organisation sociale suppose une forme de dictature du prolétariat, c'est-à-dire une forme de dictature de gouvernement des producteurs. Il dit qu'il emprunte à Saint-Simon. Bien d'autres idées, notamment sur l'éducation, sont empruntées à Owen, etc. Toujours est-il que dans le marxisme établi, ce qu'on peut appeler le marxisme dogmatique, l'opposition entre science et utopie devient une opposition absolue. Position rigoureuse. Ou on est dans l'utopie, ou on est dans la science. Et alors, naturellement, les partis communistes sont dans la science, à tel point que on peut presque définir le stalinisme en faisant glisser un peu ce que les Grecs disaient de la science. Les Grecs disaient « il n'y a de science que du général ». Avec le stalinisme, on peut dire « il n'y a de science que du secrétaire général ». Dans la mesure où le secrétaire général, c'est celui qui décide de ce qu'il faut penser en matière d'art, en matière d'industrie, en matière de langue, à tel point qu'on avait formé pour désigner le marxisme cette expression proprement effarante de philosophie scientifique. Comme disait Labriola, c'est une contradiction dans les termes, c'est une aberration. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde les choses attentivement, on s'aperçoit qu'avec le marxisme, c'est la notion de science qui tombe dans l'utopie. Parce que naturellement, cette science n'en est pas une, parce qu'il ne peut pas y avoir une science de l'activité des hommes dans l'histoire. Dans l'histoire, existent des tendances, certaines sont plus marquées que d'autres. On cite souvent l'idée que le communisme, comme le disait Marx, est une tendance du capitalisme, mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que c'est l'expression « une tendance ». Dans l'histoire de la société capitaliste, il y a la tendance noire, c'est-à-dire le fascisme, comme l'a fait la bourgeoisie allemande avec l'avènement du nazisme. Il y a le rose, c'est-à-dire le courant social-démocrate, et puis il y a le rouge qui est proprement communiste, et les jeux ne sont jamais joués d'avance en ce qui concerne l'élaboration, le triomphe de telle ou telle tendance. Ce qui fait qu'il a fallu, contre le dogmatisme, revenir à l'attention que Marx et Engels portaient à l'utopie. Mais ici, il faut préciser qu'il y a deux manières de considérer cela. Il y a la manière nostalgique, pessimiste, c'est-à-dire après l'effondrement du camp socialiste, comme on disait autrefois, on en a tout de suite induit que le marxisme s'était cassé la gueule et que ce qui s'était cassé la gueule, c'était le marxisme comme science ou comme prétendue science. Et par conséquent, à cela, on opposait l'utopie, le fait que, bon, le marxisme n'était pas une science, mais que dans la mesure où il avait saisi les possibilités de transformation de la société, en particulier la critique du capitalisme, eh bien, il anticipait une société qui serait meilleure, etc. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est de prendre utopie au sens qu'il a dans le marxisme. Et celui qui l'a mieux montré que n'importe qui d'autre ici, c'est Ernst Bloch. Ernst Bloch est un marxiste allemand qui a écrit un énorme ouvrage qui est attaché à la démonstration que l'utopie, c'est une dimension du réel. C'est-à-dire que l'utopie, c'est le nouveau, comme dit Bloch, qui travaille le réel. L'utopie, c'est ce qui doit advenir. Et Bloch le montre dans une synthèse, et il apparaît là qu'effectivement, le socialisme, tel que Marx l'a pensé, est l'avenir de l'humanité. Mais il ne l'est pas comme quelque chose qu'on tirerait comme ça, et qui serait tout préparé. Ajoutons à cela que Marx a toujours protesté contre le rôle de prophète que certains voulaient lui faire jouer. Marx n'a jamais défini la société communiste. Il s'en est bien gardé. Il a défini les éléments qui permettaient de comprendre la société capitaliste et de la dépasser, mais il n'a pas défini la société communiste. Un dernier mot là-dessus, c'est l'idée que l'on trouve chez Lénine et qui résume tout ça. Où Lénine dit, lorsque nous en aurons fini avec le capitalisme, nous ferons des pissotières avec l'or des banques.